Bon, je suis dans une situation idéale pour prêcher. Je suis suffisamment fatigué, je me sens suffisamment faible pour que Dieu puisse m'utiliser. Donc c'est un clin d'œil à ceux qui étaient là hier. Mais évidemment que Dieu, quand il a préparé Gédéon à sa bataille, il lui a enlevé tout un tas de soldats. Donc j'ai l'impression que Dieu m'a enlevé suffisamment de soldats pour que je puisse venir devant vous presque épuisé. Mais heureux d'être avec vous, vraiment. Et heureux d'être encore une fois celui qui a le privilège de méditer sa parole et puis de la proclamer. Je lirai dans quelques instants dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Alors si certains veulent préparer leur Bible ou leur smartphone, je sais que maintenant les jeunes, quand je les vois avec leur téléphone pendant le culte, je sais qu'évidemment ils ne téléphonent pas, ils regardent leur Bible. C'est ça. Les jeunes ou les moins jeunes. Bien sûr, il y a des applications où on peut avoir toute la Bible sur le téléphone et puis on peut même vérifier si ce que dit le pasteur est vrai. On cherche sur Internet. Je sais qu'ils font tout ça. C'est bien. Donc dans quelques instants, on lira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Mais dans ce sujet que je veux aborder ce matin, qui est presque plus de cet amour éternel que celui de la puissance de l'amour de Dieu, mais cet amour qui dure toujours, eh bien, dans ce chapitre, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on a des fois une vision un peu idyllique de ces premiers temps que les disciples passent avec Jésus. Et je ne sais pas vous, mais moi souvent, il m'arrive de me dire que j'aurais aimé être avec Jésus. Être disciple de Jésus quand même, au pied de Jésus, écouter ses enseignements, le suivre, vivre avec lui quand même. Ça doit être mieux que d'être avec le pasteur Gonzalez ou d'être avec le pasteur Jean Rubin quand même. Même si on les aime, on les respecte, ils nous apportent beaucoup, mais vivre avec Jésus. Et puis quand on lit vraiment les textes bibliques, on s'aperçoit que ça devait être vraiment difficile et que la plupart du temps, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris. Et dans ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 19, on voit encore une fois que les disciples ne comprennent pas. Et puis ils disent même, ils sont un peu découragés, ils disent à Jésus, mais alors ? À quoi bon se marier ? Ils vont le dire dans le chapitre 19. Mais alors, si on ne peut pas divorcer, alors est-ce que c'est vraiment avantageux de se marier ? Les disciples sont en train de dire ça, c'est incroyable. Et puis quand Jésus va leur raconter l'histoire du jeune homme riche, en expliquant que voilà, enfin quand il va se passer l'histoire du jeune homme riche, ils vont dire, mais alors qui peut être sauvé ? Qui peut être sauvé si ce jeune homme qui a respecté la loi pendant toute sa jeunesse, lui-même il s'en va parce qu'il ne veut pas vendre tous ses biens. Mais alors qui peut être sauvé, Seigneur ? Et je trouve que c'est beau d'entendre, enfin je ne sais pas si c'est beau, mais c'est intéressant d'entendre le découragement des disciples. Et de se dire que nous, notre première impression peut-être quand on parle de l'amour éternel, alors oui, peut-être l'amour éternel de Dieu pour nous, mais notre amour à nous ? Est-ce que notre amour va durer toujours ? Est-ce que notre amour pour notre épouse, notre époux, ou notre ami, ou nos enfants va durer toujours ? Est-ce que notre amour pour Dieu va durer toujours ? Seigneur, qui peut être sauvé alors ? Et j'espère en tout cas que ce chapitre 19 et puis les quelques mots que je voudrais prononcer ce matin pourront vous encourager et vous montrer que oui, cet amour peut durer toujours. Oui, l'amour pour notre épouse, notre époux, nos enfants, nos amis, notre amour pour Dieu peut durer toujours. C'est vrai. Et c'est Dieu qui le dit. On est parfois un peu découragé, on est parfois un peu sceptique, mais c'est vraiment Dieu qui dit ça et il faut qu'on s'accroche à ce qu'il nous dit. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, on lit ces quelques paroles. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Je ne sais pas si on nous avait posé la question, on aurait donné la même réponse. La réponse de Jésus à cette question sur le divorce, c'est la création. C'est l'homme et la femme créés par Dieu qui quittent père et mère et qui deviennent une seule chair. Nous, on aurait donné tout un tas d'explications savantes. Mais Jésus en revient à la création, simplement. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Les pharisiens s'appuient sur le texte biblique, vraiment. Dans la loi, dans le livre du Deutéronome, on nous parle de cette lettre de divorce. Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » C'est incroyable ce que disent les disciples. « Oh ben alors, si on n'a même plus le droit de divorcer, ça ne vaut pas la peine de se marier. » Ils sont honnêtes en tout cas, ils sont francs dans ce qu'ils disent. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Et il leur parle des eunuques, de ceux qui le sont dès la naissance, de ceux qui le décident. Et puis de ceux qui le sont devenus par les hommes. Dans ce chapitre 19, on amène aussi les enfants à Jésus, et Jésus les bénit. Il dit, laissez venir à moi les enfants, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et puis un homme s'approcha, c'est au verset 16, et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui répondit, c'est toujours surprenant les réponses de Jésus, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Vous avez vu que Jésus quand même est incroyable dans sa réponse. Si cet homme l'appelle bon, eh bien c'est que Jésus est bon, c'est que Jésus est Dieu. On nous dit souvent que Jésus ne dit pas qu'il est Dieu. C'est sa façon de le dire. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On remarque d'ailleurs au passage que Jésus a oublié tout un tas de commandements. S'il est censé résumer les commandements, les 10 commandements, il en manque quand même quelques-uns. Vous êtes des fins connaisseurs de la parole de Dieu et vous avez remarqué. Jésus se limite juste à la deuxième partie des commandements. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour cette parole. Nous te prions pour que nous puissions vraiment saisir tout ce que tu as voulu dire à tes disciples, tout ce que tu veux nous dire maintenant. Nous te prions pour que tu nous aides à comprendre combien ton amour est éternel, combien ton amour dure toujours. Nous te prions pour que tu nous aides à croire que notre amour pour toi peut durer toujours, Seigneur. Amen. Vous l'avez entendu, j'espère, dans ce chapitre, la douleur, le découragement, l'interrogation des disciples. Alors, est-il avantageux de se marier ? Et puis, qui peut être sauvé ? Une sorte de découragement devant ce que Jésus rappelle. Mais ce que Jésus est en train de rappeler, c'est que l'amour d'un homme et d'une femme doit durer toujours. S'il y a des lettres de divorce, c'est parce que votre cœur est dur. Mais le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous restiez ensemble. C'est que vous puissiez ne pas séparer ce que Dieu a uni. Et Jésus est en train, finalement, comme il le fait avec toute la loi, de reprendre un peu les rênes, de dire, bon, vous vous êtes un peu laissé aller, dans l'évangile de Matthieu, au début, hein, Jésus leur dit, il vous a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère et le traite de raca, de racaille si vous voulez, hein, eh bien celui-là est passible de jugement. Il a déjà commis le meurtre. Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, Jésus va être sans cesse en train d'approfondir la loi, de nous montrer, hein, de montrer à tous ses disciples que c'était impossible d'obéir à cette loi, que c'était impossible d'être sauvé sans Dieu, Jean-Rubin nous l'a rappelé ce matin. Sans cette décision de Dieu de nous aimer malgré tout, de nous aimer quand même, alors que nous ne sommes pas du tout aimables, je suis désolé de vous l'annoncer ce matin, de vous le rappeler, hein. Je vous trouve très sympa, très beau, mais vous n'êtes pas aimables. Enfin, nous ne sommes pas aimables. Il faut que je me mette dans le lot. Pour que Dieu nous aime, il faut qu'il prenne une décision malgré ce que nous sommes. Vous savez, on arrive à cacher un peu tout ça. Hein. On s'habille bien, on sourit, on fait des efforts. Hein. On essaie de tout faire pour paraître aimable. Mais vous, au fond de vous, vous savez tout ce qui est en vous. Vous savez toutes ces pensées qui sont en vous. Vous savez tout ce qu'il y a dans votre cœur. Avec Dieu, vous savez que ce n'est pas possible de tricher. Et Dieu nous aime quand même, parce qu'il l'a décidé. Et là, nous avons une première leçon qui me semble très, très importante. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. C'est un engagement. C'est une alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Dieu n'a pas dit, bon, je vous aime, et puis si un jour je ressens moins d'émotions pour vous, eh ben, on verra. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Hein. C'est comme ça une histoire d'amour. Hein. Quand on ne ressent plus rien, eh bien, on s'arrête. C'est ce que vivent les gens aujourd'hui. C'est ce que les gens ont d'ailleurs toujours vécu. Parce que quand on a demandé la lettre de divorce, tout ça, hein, c'est parce que finalement des hommes, essentiellement, souvent des hommes, disaient à leur épouse, bon, écoute, tu sais, c'était bien avant, mais maintenant, tu me fatigues. Ça suffit. Et puis j'en ai trouvé une plus jeune, hein, qui fait mieux la cuisine. Mais c'est ce qui se passait. Et c'est ce qui se passe encore. J'ai accompagné un jour un couple où le monsieur, en fait, est venu me dire « Écoute, Pascal, je ne ressens plus rien pour mon épouse. Il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas la peine qu'on reste ensemble. Je m'en vais. » Et quand je les ai rassemblés tous les deux, ce jeune homme a dit la même chose devant son épouse. « Je ne ressens plus rien pour toi. » Je n'ai plus d'amour, et peut-être que je n'en ai jamais eu d'ailleurs. C'est pas la peine qu'on continue. Je ne sais pas en fait si c'est Dieu qui a mis ces paroles dans ma bouche, j'espère. Mais j'ai dit à ce jeune homme, tu sais ce que tu ressens maintenant. On s'en moque. On s'en moque de ce que tu ressens. L'amour, ce ne sont pas seulement des sentiments. Tu as pris une décision, tu as pris un engagement public. Tu t'es engagé devant Dieu et devant les hommes. Si aujourd'hui tu ne ressens plus rien, c'est ton problème. C'est pour maintenant. Ça ne durera peut-être pas. Et même si ça dure, l'amour, c'est cette capacité que tu auras de décider, malgré tes sentiments aujourd'hui, de rester avec cette femme et de continuer à l'aimer. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on est bon, hein, parce qu'on dit de bonnes choses. Et quand j'ai dit ça, j'avais l'impression vraiment que Dieu me portait. Je me suis dit, ça, c'est fort. Et puis, il ne m'a pas du tout écouté. Et il est parti. Et il a pris son appartement. Et nous avons prié pour ce couple, pour cet homme qui quittait sa femme. Et Dieu a entendu nos prières. Et au bout de 6 mois, cet homme est venu me voir, enfin plutôt il m'a téléphoné, il me dit « Pascal, je vais finir ma vie tout seul comme un imbécile. » Et je me suis trompé. Et je crois bien que j'aime ma femme encore. Alors retourne-y vite. Dépêche-toi. L'amour peut durer toujours. Mais l'amour est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Tout le monde va nous dire aujourd'hui, et vous entendrez des gens qui vous disent, « Eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne ressent plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Il n'y a plus d'amour. » Et même quand on entend parfois des gens qui viennent nous dire, « Eh bien, tu sais, je vais divorcer. » Eh bien, nous ne disons plus rien. On en a parlé samedi matin dans cette première intervention que je donnais. L'Église est parfois trop silencieuse. Parce que nous disons que nous aimons les gens, nous finissons par ne plus rien dire, par ne plus rien oser dire. Quelqu'un qui vient nous dire « je vais divorcer », nous devrions pleurer. Prendre le sac et la cendre, bon, ça se fait plus trop maintenant. Hein. Mais vous imaginez à l'époque, quand il y avait un deuil, quand il y avait quelque chose de très triste, on déchirait ses vêtements, on mettait de la cendre sur sa tête. Quel symbole puissant et fort. Quelqu'un qui vient nous dire que son couple est à la dérive et qu'il s'en va, eh bien nous devrions nous agenouiller devant lui, lui tenir le pantalon ou lui dire « non, ne fais pas ça, s'il te plaît ». S'il te plaît, ne fais pas ça, nous allons prier pour vous. Vous savez, souvent, quand les gens viennent nous dire ça, c'est quasiment trop tard. C'est que ça a ruminé, ça a souffert pendant des mois, pendant des années. Et quand ils viennent nous le dire, c'est que tout est décidé, c'est que tout est fini. Il faudrait déjà que nous arrivions à être plus à l'écoute pour que les gens ne nous parlent pas de ces douleurs quand tout est quasiment fini. C'est une première chose. Et puis la deuxième chose, il faudrait que nous puissions montrer à ceux qui sont autour de nous que nous avons du souci pour eux, que rien n'est perdu, même quand tout est décidé. Nous voulons prier pour vous. Il y a encore quelque chose à sauver. Si nous faisons comme le monde et si nous leur disons « ah ben écoute, c'est triste. » Et c'est tout. C'est seulement triste. Mais non, c'est pas seulement triste. C'est terrible ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais cet amour de Dieu qui dure toujours, c'est cet amour qui durera même si nous désobéissons à Dieu, même si finalement nous ne nous remettons pas avec notre épouse ou avec notre époux. Dieu, lui, nous aimera toujours. Mais ne partons pas battus, s'il vous plaît. Ne soyons pas cyniques avec les jeunes, montrons-leur aussi par notre façon de vivre notre couple, même les couples âgés, et en particulier les couples âgés, montrons-leur que c'est possible, que cet amour-là est possible, que ce n'est pas qu'une question de sentiment, c'est une décision, c'est une alliance. Si Dieu a fait alliance avec nous, nous savons que lui ne lâchera jamais. On nous l'a rappelé ce matin. C'est sur Dieu, sur ses promesses, sur sa capacité à tenir bon que nous allons nous appuyer. Et vous savez, la deuxième leçon, je vous ai dit que l'amour était une décision, ce n'était pas un sentiment. La deuxième leçon, c'est que pour qu'un couple dure, pour qu'une amitié dure, pour que l'amour entre un père, une mère et ses enfants dure, eh bien il faut qu'en premier lieu, nous pensions toujours à notre amour pour Dieu. C'est cet amour-là qui doit passer sans cesse en premier. Je me suis retrouvé à dire aussi parfois à des jeunes couples qui se préparaient à un mariage, « Écoute, je suis heureux de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Maintenant, je dois vous dire quelque chose de difficile et d'important. Ce n'est pas cet amour-là qui doit passer en premier dans votre vie. » Et on voit les jeunes mariés qui ouvrent des grands yeux. « Mais si, c'est ça le plus important, c'est l'amour pour mon épouse et pour mon époux. » Non. Non, non. Pour chacun d'entre vous, ce qui est premier dans votre vie, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Et si un jour votre époux ou votre épouse vous dit « Écoute, tu dois maintenant choisir, c'est Dieu ou c'est moi ?» Vous allez dire « C'est Dieu. Ne me fais pas choisir entre Dieu et toi. C'est Dieu que j'aime. C'est à Dieu que je veux obéir. » Et c'est parce que votre amour pour Dieu sera premier, c'est parce que c'est à Dieu que vous penserez en vous levant le matin, que votre amour pour votre épouse et votre amour pour votre époux pourra tenir bon. C'est parce que vous aurez su placer les priorités. C'est une leçon tellement importante. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour. On l'a dit hier. Il y a cette hérésie de l'amour, hein, cet amour qui n'est plus l'amour biblique, qui n'est pas l'amour dont parlent les textes bibliques. On parle beaucoup d'amour, et on parle beaucoup d'amour pour son épouse, pour la famille. C'est ça qui semble être le plus important. Il y a des gens d'ailleurs qui ne viennent pas à l'église parce que c'est fatigant la semaine, parce qu'il faut se retrouver en famille, parce que ce n'est plus l'église qui est le lieu où on se ressource, c'est la famille. Combien je les comprends. Moi qui ai abandonné ma famille pendant un week-end pour venir à la convention d'Agen. C'est notre amour pour Dieu qui est premier. Nous devons faire attention à notre famille. Nous devons nous occuper de notre famille. L'apôtre Paul dira, vous pouvez vous marier, c'est très bien. Mais vous allez devoir veiller à votre famille, vous soucier de votre famille. L'amour de Dieu sera premier, mais ne délaissez pas vos enfants, ne les irritez pas. Ne délaissez pas vos épouses et vos époux. Soyez sages, remplis de sagesse. Mais quand même, c'est Dieu que vous aimez en premier. C'est dans l'Église que vous devriez retrouver des forces pour pouvoir ensuite, dans la semaine, vivre, tenir bon. Normalement, venir à une convention, c'est se ressourcer, c'est prendre de l'énergie. On y vient des fois par devoir. C'est vrai. Des fois, on continue dans le couple par devoir. On a pris un engagement, c'était une décision. J'espère bien que petit à petit, ce devoir nous donne aussi du plaisir. Hier, j'en parlais par rapport à la nourriture bio. Au début, quand on s'engage à manger de façon un peu plus saine, eh bien, au début, c'est difficile parce que ce qu'on mange nous semble parfois moins bon. Ça, c'est surtout pour les enfants et pour les jeunes. Ben oui, les pâtes à tartiner bio, c'est des fois un peu moins bon que le Nutella. C'est comme ça, c'est terrible. Il y a des fois des produits qui sont cuisinés, eh bien, il y a des choses dedans qui sont tellement agréables et qui sont tellement mauvaises pour le corps. Il faut du temps pour que notre corps se réhabitue. Mais petit à petit, quand nous faisons continuellement cet effort de mettre Dieu à la première place, quand nous faisons continuellement cet effort d'avoir une vie spirituelle bio, la vie spirituelle bio, la façon de se nourrir spirituellement, pas du fast-food, pas des plats pré-cuisinés, mais vraiment du temps pour préparer notre repas, du temps pour préparer notre culte, du temps pour Dieu. Le bio, en fait, c'est long. C'est vrai. Manger bien, c'est plus long que manger mal. Et c'est meilleur pour la santé. Mais c'est un effort. Et petit à petit, on voit les bénéfices de cet effort. Ça prend du temps. Mais on s'aperçoit, comme je le disais hier, qu'il y a finalement des choses qu'on ne supporte même plus. Il y a des aliments pré-cuisinés qui étaient bons avant et qu'on n'aime plus. Vous savez, il y a même des produits. Avec mon épouse, on a réfléchi aussi à la question du dentifrice. Il y a tellement de produits qui sont mauvais dans le dentifrice. Et on met ça dans notre bouche tous les jours. Matin, midi, soir, pendant des années, des années, des années. Incroyable. Quand on finit par mettre du dentifrice bio, vraiment bio, parce que des fois c'est du dentifrice à la menthe bio. Donc il n'y a que la menthe qui est bio et tout le reste c'est pareil. Il y a les mêmes produits, mais la menthe est bio quand même. Il y a tout un marché dans le bio. Quand on met un dentifrice qui est fait avec de l'argile, oui c'est moins agréable. Ça fait des granulés dans la bouche, là vraiment on préfère le dentifrice d'avant. Et puis petit à petit, on ne le sent pas encore dans notre corps. Mais quand un jour on est chez des amis et puis qu'on remet le, je ne vais pas citer de nom de marque, mais vous les avez tous en tête, eh bien on ne supporte plus ce dentifrice-là. On ne supporte plus ces produits-là. Ma prière, c'est que petit à petit, votre relation à Dieu soit si bio que vous ne puissiez plus supporter le fast-food spirituel, les réflexions superficielles, les petits cultes, les petits moments, ou bien que vous vous sentiez en manque si vous n'avez pas eu votre convention, que vous vous sentiez en manque si vous n'avez pas eu votre communion fraternelle, votre dose de communion fraternelle. Je prie Dieu pour que nous puissions ressentir ce manque-là. Alors, notre amour durera toujours. Je dis bien notre amour parce que l'amour de Dieu durera toujours. Et on est obligé quand même chaque fois de le rappeler comme on l'a fait hier. Il faudra quand même qu'un jour, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous signiez le papier. Dieu s'est engagé pour nous. Il vous dit maintenant, « Oh, toi, est-ce que tu réponds à mon amour ?» Est-ce que tu t'engages avec moi? Et si tu t'engages avec moi, je m'engage avec toi. Je ne te lâcherai jamais. Il y a des gens, en fait, il y a des chrétiens qui passent toute leur vie chrétienne. Je ne sais pas d'ailleurs si on doit dire des chrétiens. Des gens qui passent toute leur vie chrétienne sans être sûrs de l'amour de Dieu. sans être sûrs de leur salut, dans le doute et dans l'angoisse. Vous savez, Luther qui était moine, Luther qui est devenu théologien, un professeur de théologie, et qui n'était pas sûr de son salut, et qui en relisant les Écritures pour donner des cours à des étudiants, a finalement compris qu'on était sauvé par grâce, une fois pour toutes, qu'il n'y avait rien de spécial à faire, mais qu'il fallait signer le papier. Et Luther disait pendant ces périodes de tentation, « J'ai été baptisé, je suis à Dieu, Satan, je ne t'appartiens plus, c'est définitif, notre corps est le temple du Saint-Esprit. » Vous vous rappelez hier la petite veilleuse, hein, la veilleuse du chauffe-eau. Le Saint-Esprit est en nous, il y sera tout le temps. Il ne partira jamais. Même dans des moments où vous ne ressentez plus Dieu. Vous savez, il y a des églises où on ne parle que de ça. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? C'est bien, hein? Mais quand on ne sent pas la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il faut penser? Alors Dieu n'est pas là? Non, c'est nous qui ne sommes pas là. Dieu est toujours là. Quand nous l'invoquons, quand nous nous mettons d'accord les uns et les autres pour vivre quelque chose avec lui, il est là, même si nous ne ressentons rien. Il nous aime même quand nous ne ressentons pas son amour. Et on l'a dit hier, ne soyons pas surpris si nous passons par l'épreuve. C'est par de nombreuses tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. C'est marqué dans la Bible. Ce n'est pas le pasteur Gonzalez qui le dit. Alors nous sommes avertis. Si nous avons une vie spirituelle bio, si nous avons une vraie vie spirituelle, nous ne serons pas surpris par les épreuves. Nous ne serons pas surpris par les difficultés. Nous ne douterons pas de l'amour de Dieu parce que nous avons perdu un proche, notre épouse, notre époux, nos enfants. Il nous arrive avec mon épouse de dire à Dieu, « Seigneur, nous te remercions pour nos enfants. Nous savons que tu peux nous les reprendre un jour. » Nous te remercions pour ce temps que nous passons avec eux. Aide-nous à vivre du temps de qualité avec eux. Merci pour mon épouse, merci pour mon époux. Je sais que tu peux la reprendre quand tu veux. J'aimerais bien la garder un peu, le plus longtemps possible. On a le droit de dire à Dieu ce dont on a envie. Bon, je ne sais pas si c'est bien de lui dire qu'on a envie qu'il la reprenne. Hein. Ça, c'est pas très joli. Hein. Bon, mais on peut dire aussi notre colère. Hein. Dans le livre des psaumes, il y a des choses qui sont dures, on en a parlé hier. On peut dire notre colère à Dieu pour qu'il l'enlève. Hein. Seigneur, j'ai envie que mon épouse parte, libère-moi de cette pensée. Hein. Mon amour n'est plus le même, je ne ressens plus rien pour elle ou pour lui. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Je veux que cet amour dure parce que j'ai pris une décision. Je veux que cet amour dure parce que tu t'es engagé pour moi aussi. Parce que je sais que tu vas m'aider, mais j'ai besoin de toi. Dieu peut tout nous enlever, mais il ne nous enlèvera jamais son amour. Et sa grâce nous suffira. Je vous assure que l'amour de Dieu dure toujours. Et je vous assure que votre amour pour lui, votre amour pour votre épouse, pour votre époux, pour vos enfants, pour vos amis, combien c'est beau l'amitié, tous ces amours-là peuvent durer toujours. Si vous placez Dieu en premier, si vous réalisez que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais une décision, vous y arriverez. Nous y arriverons parce que nous nous aiderons les uns les autres. Vous vous rappelez, avec nos hérésies différentes, avec nos erreurs différentes, avec nos défauts qui sont différents, que c'est beau cette église avec tous ces défauts mélangés. Parce que si on avait les mêmes défauts, je vous l'ai dit hier, eh bien on s'aiderait pas, hein, on les verrait même pas. Mais là, une église où on voit qu'on n'a pas les mêmes défauts et qu'on peut s'encourager les uns les autres, se reprendre les uns les autres, profiter des qualités aussi qui sont chez les autres et que nous n'avons pas. Alors oui, nous allons y arriver ensemble. Et notre amour durera toujours. Amen.